pas d'opposition entre la parole de Dieu et son esprit. Amen. Son esprit aussi parle, agit aussi quand on parle de sa parole. J'aimerais commencer... Ça va, j'ai une grosse voix, j'ai l'impression, ou bien c'est moi. C'est fort. Voilà, donc j'aimerais commencer par vous poser une petite question. Est-ce que vous êtes plutôt optimiste ou pessimiste ? Ouais, réaliste. Pessimiste donc. Oui, je sais qu'on ne dit pas pessimiste parce que c'est négatif. Mais vous savez que les optimistes, ils ont inventé l'avion. Et vous savez que les pessimistes, qu'est-ce qu'ils ont inventé ? Le parachute, voilà. On a besoin des deux, on a besoin des deux. Voilà, c'est vrai que j'aimerais vous montrer quelqu'un d'optimiste. Une petite image là. Voilà, voilà quelqu'un d'optimiste. Voilà. Parfois, on peut être un petit peu, c'est un peu le côté négatif du pessimisme, mais le pessimiste, il est aussi réaliste. Hein. C'est pas que négatif, le pessimiste. Mais ça, c'est un peu un aspect négatif du pessimiste. Vous voyez que... Donc, on a une première image, on voit quelqu'un qui fait beau, ils ont encore annoncé de la pluie pour demain. Le lendemain, il pleut, donc il n'est pas content. Et le surlendemain, quel sale temps on a eu hier alors qu'il fait beau. Et il y a quand même 2 jours sur 3, il fait beau. Voilà. Et c'est vrai que le réaliste, c'est celui qui voit les choses à améliorer. Souvent pas toujours négatif, hein. Faut des gens comme ça. Mais parfois, face aux difficultés, face à la souffrance, face au monde dans lequel on vit aujourd'hui, on peut être soit pessimiste, soit négatif ou réaliste, soit des fois optimiste. Ça va aller mieux, ça ira mieux. Et la Bible nous invite pas forcément à être optimiste ou pessimiste, mais elle nous dit autre chose. Vous savez ce que la Bible nous dit ? La Bible nous dit « Le juste vivra par la foi ». Amen. Voilà ce que la Bible nous dit. Et cette foi ne dépend pas des circonstances ou même de notre caractère. Parce que parfois, l'optimiste il peut être rejoint par certaines difficultés et son optimisme ne suffit plus. Et c'est un prophète qui nous enseigne cette vérité que j'aimerais vous partager ce matin. C'est dans le livre du prophète Habacouc. Je ne sais pas si vous lisez, vous avez déjà lu ce prophète. C'est un petit prophète. Ça fait partie des 12 petits prophètes de l'Ancien Testament. De nouveau, pas petit devant Dieu, mais plutôt petit en termes de longueur des chapitres de ce qu'ils ont écrit et ce qu'ils ont communiqué. Tous ces prophètes de l'Ancien Testament, surtout ce qu'on appelle les 12 petits prophètes, ils ont prophétisé entre le 9e et le 5e siècle avant Jésus-Christ. Donc il y a un bon moment, mais vous verrez que l'homme n'a pas tellement changé. Et le cœur de l'homme aussi. Et on ne sait pas grand-chose de qui était ce prophète, qui il était, d'où il venait, mais il nous a laissé un exemple formidable à travers 3 petits chapitres de ce livre. Et un verset exceptionnel qui sera repris 3 fois dans le Nouveau Testament. On pense que c'est ça vient du Nouveau Testament, mais en fait ça vient de Habacouc qui est dit « Le juste vivra par la foi ». Et un de ces plus fameux versets qu'on peut lire ensemble, c'est Paul qui va dire « Je n'ai pas honte de l'évangile de Christ, c'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit, du juif d'abord, mais aussi du non-juif ». En effet, c'est l'évangile qui révèle la justice de Dieu par la foi et pour la foi, comme cela t'est écrit, le juste vivra par la foi. Amen. Quelle formidable déclaration. Mais si on voit dans quel contexte Habacouc a reçu cette promesse et ce verset, vous verrez que ce n'est pas si extraordinaire que ça. Habacouc est un prophète donc, qui a exercé son ministère en Juda, vers 605 avant Jésus-Christ. C'est juste peu avant la chute du royaume de Juda. Donc il y a le royaume du Nord qui a déjà été exilé, mais il y a le royaume du Sud avec Jérusalem pour capitale qui sera par la suite déporté par le puissant empire babylonien. Et Habacouc, c'est un contemporain de Jérémie qui va aussi voir cette catastrophe arriver au peuple d'Israël. Donc en fait, Habacouc, il est dans un contexte pas si facile que ça. Et il est dans un contexte, quelque part, où il y a beaucoup, dans la société israélite, beaucoup de souffrances liées au péché, au mal. Et il vit aussi dans un contexte international où ça bouge beaucoup. Il y a beaucoup de guerres, de changements aussi, d'alliances. Et il est dans un moment de l'histoire qui n'est pas évident. Et juste, on ne va pas lire aujourd'hui les trois chapitres, mais vous donner deux, trois pistes de réflexion. Donc au chapitre 1, vous aurez un prophète qui est pas mal déboussolé, on va le voir, même perplexe. Et au chapitre 2, on va avoir un prophète qui va se mettre à l'écoute de Dieu. C'est pas mal hein, pour un prophète d'écouter Dieu. Et avec une réponse étonnante de Dieu. Et à la fin, on verra un homme qui a changé. Et le livre d'Habacouc s'ouvre avec un dialogue, en fait, entre Dieu et son prophète. Et ce dialogue est fait de deux plaintes que Habacouc adresse à Dieu, et il y aura des réponses à ces deux plaintes du prophète. Et le problème que soulève Habacouc dans son dialogue avec Dieu, c'est un problème qui nous touche tous, c'est le problème de la souffrance. C'est le problème de la difficulté. C'est le problème, quelque part, qu'a vécu Job de manière individuelle. Mais ici, Habacouc le vit au niveau de son peuple, pas forcément qu'au niveau individuel. Il le vit au milieu de son peuple. Et il voit un malheur collectif qui va arriver, qui lui est annoncé. On va voir ça ensemble. Donc voilà que ce que dit... Ça commence bien, ça commence par une plainte à Dieu. Jusqu'à quand, Éternel, vais-je crier à toi ? Voilà, ça commence comme ça, le livre d'Habacouc. Tu n'écoutes pas. Je ne sais pas si certaines personnes se reconnaissent. Moi, bien sûr. J'ai crié vers toi pour dénoncer la violence, mais tu ne secours pas. Pourquoi me fais-tu voir le mal et contemples-tu l'injustice ? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi ? Il y a des procès, des conflits partout. Ce n'est pas très beau ce qui se passe en Israël. Aussi la loi, la Torah, est sans vie. Le droit est sans force, car le méchant triomphe du juste et l'on rend des jugements corrompus. Voilà le constat du prophète Habacouc dans le peuple israélite, dans la société. Voilà, il y a des gens qui exploitent les autres, il y a des conflits. Et combien ? Nous tous, on peut dire aussi ça. On le voit aussi autour de nous. Et dans ce dialogue qui se fait entre Dieu et Habacouc, il ne comprend pas pourquoi Dieu laisse le péché au milieu de son peuple. Et quelque part, sa patience, elle s'épuise. Il n'y a rien qui se produit. Ça continue toujours ces histoires, ces vols, on parle mal, les gens ne s'aiment pas, se disputent. Mais jusqu'à quand ? On est quand même le peuple d'Israël. Comment ça se fait qu'on vit cela ? Pensez que Dieu va répondre quoi ? Qu'est-ce que Dieu va répondre à ça, d'après vous ? Je te comprends. Ça va aller. Viens mon petit, ma petite, viens dans mes bras. Je vais te consoler. Non, c'est pas ce qu'il va lui répondre. Qu'est-ce qu'il va lui répondre ? Ah, il y a un petit décalage sur le PowerPoint. Il va dire « Je vais réagir et je vais punir. » La réponse de Dieu, c'est qu'il va envoyer les Babyloniens pour punir son peuple de ses péchés. C'est une belle réponse, n'est-ce pas ? C'est ce qu'on s'attendait. Et voilà qu'il lui dit « Pour résoudre le mal qui est dans le peuple d'Israël, je vais envoyer des Babyloniens pour les exterminer. » Ah bon ? Mais comment ça ? Et je vais envoyer, donc il est dit les Chaldéens, c'est vrai que les Chaldéens c'est une dynastie de Babylone, mais c'est les Babyloniens en fait. Dieu va faire venir un peuple méchant pour extirper le mal. Waouh ! C'est une sacrée réponse de Dieu. Alors vous pensez bien que le prophète, il ne comprend pas trop la réponse de Dieu à ce moment-là. Il ne comprend pas la réponse de Dieu et il va dialoguer, le dialogue va se continuer et il va se plaindre une deuxième fois. Il dit, mais le remède que tu proposes, Seigneur, est pire que le mal. L'injustice est encore plus grande. Comment Dieu peut-il résoudre les problèmes des mauvaises actions du roi de Jérusalem en utilisant des païens, une nation païenne, les Babyloniens, pour venir faire des exactions terribles au milieu de son peuple ? Lui qui Et il dit, toi qui ne peux pas voir le mal, il lui dit ça, toi qui es pur face au mal, tu prends le mal pour traiter le mal. Toi qui conduis l'histoire, il va parler de l'histoire, tu es ce Dieu de l'histoire, comment peut-il faire cela? Est-ce qu'on est juste des insectes? Et à ce moment du dialogue, il y a de quoi pour Habacuc rompre le dialogue avec Dieu. Il aura pu se mettre en colère, accuser Dieu et même abandonner sa foi. La tentation est proche de celle de Job. Vous savez, cette tentation qui est jamais loin, dans ces moments-là, dans ces moments d'incompréhension, il peut y avoir une personne à côté de nous, une voix, qui nous dit « Maudit Dieu et meurt ». C'est ce que dit la femme de Job, hein « Maudit Dieu et meurt ». Si Dieu est souverain sur l'histoire, comme nous le croyons, et si nous pensons que Dieu conduit l'histoire, nous avons de la peine à comprendre pourquoi Dieu permet certaines choses. On vient de vivre les commémorations du 13 novembre, je ne sais pas pour ceux qui l'ont vécu, qui ont lu un peu, j'ai revu des reportages, c'est effrayant ce qui s'est passé le 13 octobre, il y a 10 ans. C'est terroristes islamiques qui sont venus tirer sur des gens qui étaient sur des terrasses, comme la mort a frappé au Bataclan, à différents endroits. Des gens dont la vie a été prise, dont beaucoup de blessés, des gens qui n'ont pas compris ce qui leur arrivait. C'est d'une violence tellement extrême, et les traumatismes pendant des années que les gens n'arrivent pas à surmonter face à ça. Les phénomènes post-traumatiques. Et je me disais, en regardant ça, je me disais, mais c'est d'une violence tellement extrême. Mais pourquoi, Seigneur? À quoi ça sert? Est-ce que c'est nécessaire pour que les gens se tournent vers toi? Qui est ça? C'est pas possible. Et moi, en regardant ça, je me disais, mais pourquoi, Seigneur? Et je pense que Habacuc a dû avoir les mêmes questions face à ce que le Seigneur lui disait, face à ce qu'il voyait. Et il aurait pu céder aux sirènes de la révolte. Et il y en a qui ont cédé. Hein. Vous savez que dans les suites aux attentats du Bataclan, deux personnes se sont données la mort, tellement c'était insupportable cette vie-là. Des fois, on peut céder à la mort, aux pensées, à être tellement abattu, où on ne peut pas comprendre, où on rejette tout. On peut réagir par la violence, on peut réagir aussi contre Dieu, quand on est croyant. Et heureusement, Habacuc n'a pas cédé à cela, mais il va faire quelque chose que nous avons de la peine à faire humainement. Il va se taire et il va attendre. Donc, on est à la fin du chapitre 2. Il dit, je veux être à mon poste et me tenir sur la tour. Je veux veiller pour voir ce que l'Éternel me dira. Voilà, il s'arrête. Il arrête de parler. Il arrête de dialoguer sur ce sujet. Il arrête de poser ses questions. Juste, il se tait et il écoute ce que le Seigneur va lui dire. La réponse va venir assez vite au verset 2. Mais peut-être que cette attente a duré des heures. Peut-être que cette attente a duré des jours. Peut-être que cette attente a duré des années, on ne sait pas. Le texte ne nous le dit pas. Mais c'est vrai que, comme la réponse vient vite après le verset 1, il y a une chose qu'on peut dire, c'est que celui qui cherche Dieu, qui se tait, qui se met devant le Seigneur, qui le cherche de tout son cœur, pas, qui ne cède pas à ses sentiments de violence, de colère, de révolte, il obtiendra une réponse du Seigneur. Amen. Il obtiendra une réponse de son Dieu. Et voilà que Dieu lui répond. Et On va voir cette réponse. J'aimerais juste voir un autre verset dans Lamentations et un peu creuser ce temps d'attente qu'a dû vivre Habacuc et qui est pour moi le cœur du changement dans sa façon de voir et dans sa vie, en fait. Voilà ce qui va être dit par le prophète Jérémie. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Il se tiendra solitaire et silencieux parce que l'Éternel le lui impose. Ce texte-là du prophète Jérémie, il médite aussi sur les souffrances d'Israël, comme Habacuc, après la destruction, par contre, de Jérusalem. Et ici, le silence n'est pas celui du désespoir, mais celui de l'humilité et de la soumission devant Dieu. C'est ça, faire silence devant Dieu. Le prophète ici exprime que face à la souffrance et à la correction divine, il faut se taire et attendre le salut de Dieu plutôt que de murmurer et de se rebeller. Et en fait, se taire, c'est pas être passif, c'est justement être actif. Se taire, c'est reconnaître, on voit pas très bien, mais c'est reconnaître la souveraineté de Dieu. Reconnaître la souveraineté de Dieu. Et attendre en silence, c'est garder la foi dans l'épreuve. Vous voyez, c'est quelque chose de très actif et de très dynamique, en fait. C'est comme si le Seigneur nous disait, et disait à son prophète, et nous dit aujourd'hui, accepte le moment difficile comme venant de Dieu, reste dans le silence de la foi, et attends patiemment son secours. La réponse de Dieu, après ce moment-là, qu'est-ce que Dieu va lui répondre ? Ses plans ne changent pas. Ses plans ne changent pas. Il ne va pas retirer son jugement. Mais il va lui donner une promesse. Le juste vivra par sa foi. Dieu ne va pas retirer son jugement sur son peuple et Dieu annonce aussi qu'il jugera les Babyloniens pour que sa justice soit respectée. Et la parole de Dieu, cette réponse de Dieu, se termine par un texte incroyable qui nous rappelle un petit peu la même chose que dans Job. Hein. Job, il est un peu déboussolé à la fin, comment Dieu lui répond. Il n'obtient pas ses réponses. Mais il voit la grandeur de Dieu. Et ce passage, cette réponse de Dieu se termine par « L'Éternel est dans son saint temple, que toute la terre fasse silence devant lui. » Que toute la terre fasse silence devant lui. Voilà ce qui s'est passé dans le cœur d'Habacuc. Il s'est passé quelque chose. Et on voit qu'au chapitre 3, on voit qu'il y a quelque chose qui a changé. C'est dommage parce qu'on ne voit pas tout le texte, mais je te demanderai après si tu arrives à remettre le texte sur une slide, ce serait bien, c'est important, cette dernière slide. On voit que Habacuc a changé. Il est devenu quelqu'un de transformé. On voit qu'il est devenu un adorateur déjà. Malgré les circonstances difficiles, il va faire confiance à Dieu et il est dans la paix. Il n'est plus dans cette il est perplexe au début, il est un petit peu décontenancé, il n'est pas dans quelque chose où il est très à l'aise intérieurement, mais là on voit qu'il fait plus confiance à Dieu et il est dans la paix. Dieu n'a pas changé ses plans, mais son prophète a changé. C'est ça qui se passe en lui. Il a une nouvelle connaissance de qui est son Dieu et il a un regard d'espérance qu'il n'avait pas avant. Alors je vous invite à lire avec moi ce chapitre 3, quelques versets dans ce chapitre 3. Éternel, j'ai entendu ce que tu as annoncé, je suis saisi de crainte. Vous voyez comme ça tranche avec le début. Crie à Dieu, mais comment ça se fait ? Et là, il est saisi de crainte. Comme Job, je mets la main à ma bouche. J'ai parlé trop vite, Seigneur. Sautons au verset 12. Tu parcours la terre dans ta fureur, tu écrases les nations dans ta colère. Tu sors pour délivrer ton peuple, pour délivrer celui que tu as consacré par ton onction. Tu brises le faîte de la maison du méchant. Tu l'as détruit de fond en comble. Waouh ! Quel Dieu extraordinaire ! Et on va lire le verset 16 à la fin. Tu peux mettre le chapitre 3, les derniers versets de 16 jusqu'à la fin. C'est les derniers versets de Habacuc qui terminent le livre. Voici ce que dit le prophète. J'ai entendu et je suis tout bouleversé. À cette voix, mes lèvres tremblent. La pourriture vient dans mes os et mes jambes tremblent. Sans bouger, j'attends le jour de la détresse. Le jour où notre assaillant marchera contre le peuple. En effet, le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage et il n'y aura plus de bœuf dans les étables. Mais moi, je veux me réjouir en l'Éternel, je veux être dans l'allégresse, dans la joie, il est en train de dire, à cause du Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me fait marcher sur mes hauteurs. Extraordinaire, n'est-ce pas? On a un prophète totalement transformé. Il s'est passé quelque chose dans ce temps de cœur à cœur avec Dieu. Le livre qui commençait par un prophète déprimé et perplexe, il finit avec un prophète plein de foi et plein de joie. Il va y avoir tous ces malheurs. Dieu n'a pas changé ses plans. Mais il y a un mais. Je veux me réjouir. Comment le prophète peut dire ça? Comment peut-il dire ça? C'est parce qu'il est passé par une transformation intérieure avec son Dieu. Regardez, au verset 16, dans ce passage, il dit que il est sans force. Il dit « La pourriture vient dans mes os et mes jambes tremblent. » La réalité n'a pas changé. Ce n'est pas de sa foi, la foi qu'il a, ce qu'il vient de vivre. Ce n'est pas juste « Allez, on se ferme les yeux, ça va aller. » Non, la réalité est toujours là. Il dit que mes jambes tremblent de ce qui va se passer. Il est conscient de ce qui va se passer. Mais regardez à la fin, au verset 19, il dit que Dieu est sa force et le fait marcher sur les hauteurs. Amen. Dieu le fait marcher sur les hauteurs. Il faut passer un stade si on veut surmonter certaines choses. Et parfois, la difficulté nous amène, nous force à passer un stade avec Dieu. Parfois, la difficulté, nos questions, ce qu'on ne comprend pas, nous poussent à aller vers Dieu, dans le silence, et à attendre qu'il se passe quelque chose avec lui. Amen. C'est ça que nous enseigne Habacuc, c'est ça qu'il nous enseigne. Et Habacuc a vécu quelque chose, il s'est passé quelque chose. Parce que maintenant, la situation n'a pas changé, mais lui est transformé. Lui marche sur les hauteurs, il ne tremble plus spirituellement. Il s'est passé quelque chose. Et lorsque tout semble aller mal, le peuple de Dieu est appelé à attendre patiemment dans le Seigneur, à chercher auprès du Seigneur qui veut nous faire monter sur les hauteurs avec lui. Amen. Voilà ce que le Seigneur veut faire. Dieu jugera, Dieu va juger, peut-être pas tout de suite. Dieu va intervenir, peut-être pas de ton vivant, mais il va le faire. Bien sûr que Dieu ne va pas laisser l'injustice, Dieu ne va pas laisser le mal. Un jour, le mal sera totalement vaincu. Un jour, déjà avec la venue de Jésus-Christ, ce que les prophètes avaient annoncé, déjà une victoire sur le mal à la croix. Extraordinaire. Et un jour, au second retour de Christ, le mal sera totalement vaincu, sera évacué de ce monde. Le mal ne sera plus. Mais en attendant que Dieu juge, que Dieu fasse tout cela, que Dieu juge les nations, que Dieu juge les personnes qui font souffrir le juste injustement. En attendant cela, eh ben, le Seigneur dit, fais-moi confiance, monte dans les hauteurs avec moi. Voilà le message que le Seigneur veut encore nous dire ce matin. Lorsque l'épreuve, la difficulté augmente, l'incompréhension, vivre par la foi, ce n'est pas être optimiste ou être pessimiste. Le réel ne va pas changer, mais Dieu veut nous changer, nous. Amen. Dieu veut nous approcher, nous rapprocher de lui pour nous changer. Dieu n'a pas changé ses plans, mais Habacuc n'est plus le même. Il a reçu une révélation. J'ai vécu cela, on le vit quelque part, plus ou moins, mais je l'ai vécu de manière très très forte quand j'étais plus jeune. Dans le cadre de l'école, j'ai vécu du harcèlement. Je ne sais pas, pour ceux qui sont passés par là, c'est absolument incompréhensible, le harcèlement. Ça démarre sans raison et ça peut être très violent. Surtout quand on est ado, quand on est jeune, c'est un moment de notre vie où on a besoin de faire partie du groupe. Et quand j'ai vécu ce harcèlement, c'est vrai que je n'ai pas compris ce qui m'arrivait. Je venais du secondaire où j'étais avec toute une bande d'amis et on faisait un petit peu les 400 coups, un peu ensemble, qu'on était assez bien vu, entre guillemets, par les autres copains du collège. Et quand je suis arrivé au gymnase, j'étais plus du tout avec mes copains et je me suis dit, je vais travailler cette année. Je vais vraiment, parce que j'avais toujours peu mieux faire, et forcément, je faisais autre chose qu'écouter. Et du coup, je me suis dit, je vais me mettre devant et je vais travailler. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai été vraiment des petites brimades. Et puis, vous savez, ça va de plus en plus fort. Et ça va jusqu'à un point qu'après, c'est d'autres qui se joignent. C'est toujours un mouvement de groupe, hein, parce que quand on est harcelé, ben, ça arrange bien les autres de ne pas être harcelés. Donc, on se met avec les harceleurs. Et voilà que je suis arrivé dans une situation où je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Franchement, c'est comme si le mal augmente, c'est-à-dire que cette année-là, je me suis cassé la jambe, donc encore plus de moyens de se faire harceler, parce qu'on a que ces deux cannes, et puis on nous ramasse une canne, voilà. Vous imaginez. Et voilà que j'étais dans ce mode-là, et là, j'ai crié à Dieu. Je venais d'une famille chrétienne, je croyais en Dieu, mais comme ça. Et j'ai dit, Dieu, si tu existes, tu dois intervenir dans cette situation. Et du haut de mon adolescence, on savait, un ado, hein, qui se lève le matin pour prier, c'est rare. Il se met vraiment, parce qu'ils aiment dormir, les ados. Mais je me suis levé le matin pour prier, j'ai cherché Dieu. J'ai dit, Dieu, interviens dans ma situation. Viens à mon secours. Change ma classe. Change, je sais pas, fais un miracle. Vraiment, je cherchais Dieu dans ce sens. Je comprenais pas ce qui m'arrivait. C'était d'une violence extrême. En tout cas, comme je la ressentais, peut-être qu'il y en a qui ont vécu, bien sûr, des choses plus dures, mais voilà que je me suis tombé dans cette situation. Et ma prière, c'était, Seigneur, fais cesser ce harcèlement. Change mes camarades. Change-moi de classe. Et un jour, Dieu m'a visité. Et ça a été un moment tellement fort. J'ai tellement été rempli du Saint-Esprit. Je me souviendrai à cette soirée-là que, en fait, j'ai commencé à prier pour mes harceleurs. J'ai commencé à dire, mais sans Jésus, ils sont perdus. J'ai commencé à les voir différemment. J'ai commencé à les aimer, alors que ce n'était pas moi, hein, c'était vraiment l'œuvre du Saint-Esprit en moi. Je dis, mais Seigneur, mais sauve-les. Et j'ai tellement été transformé par l'Esprit de Dieu que, en fait, quand j'allais en classe, je n'avais plus peur. Ces gens-là, je les aimais. Je commençais à leur parler de Jésus. Vraiment, Dieu m'avait totalement transformé. Je passais tellement du temps avec Dieu, dans sa présence, j'avais tellement été balayé par son esprit que j'ai passé du temps à lire sa parole, chose que je ne faisais pas avant. Je passais du temps à prier, à le louer. Tout avait changé dans ma façon de voir. Vous savez qu'à tel point que l'année suivante, j'ai changé de classe. Je suis tombé dans une super classe, j'ai redoublé. C'était une année où j'ai redoublé. Forcément, avec ce contexte-là, pour étudier, c'est un peu compliqué. Mais j'ai redoublé, je suis retombé dans une classe où c'était tous des musiciens. J'avais pris option musique pour cette... voilà. Et c'est tous des musiciens, super ambiance. Ils faisaient des concerts, tout le monde s'entendait bien dans cette classe. Vous savez que j'ai oublié ma demande que j'avais faite à Dieu. J'avais dit à Dieu, change ma classe. C'était complètement... C'est longtemps après, je me suis dit, mais c'est vrai, en fait, Dieu, tu m'as même répondu. Mais ce n'était plus devenu un problème. Parce que Dieu avait touché ma vie. Dieu n'avait pas changé ses camarades, n'avait pas changé les attaques, mais avait changé mon cœur. Et vous savez, c'est ce qu'on a vraiment besoin, c'est ce que j'ai besoin dans tous les combats, toutes les difficultés que je traverse. Seigneur, transforme, transforme ma vie. Plus de toi, Saint-Esprit, moins de moi, moins de ces choses qui m'attaquent. Alors c'est dans ce but vraiment que nous invitons aussi l'Église à jeûner et à prier. Vraiment, il y a des gens qui pensent qu'on a lancé un nouveau truc, le jeûne et la prière. On a lancé ça depuis début septembre parce qu'on s'est dit qu'on n'avait pas assez d'activité à l'Église. On s'est dit on va s'occuper, on va lancer un mouvement de jeûne et prière. Voilà. Bon, ça va leur passer, oh pasteur. Non, mais parce qu'on est conscient que dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, et ça ne va pas s'améliorer, mes amis, ça ne va pas s'améliorer, ça va continuer. On est conscient dans le monde dans lequel on est, ça va aller de pire en pire. Et si on ne vient pas se tenir devant Dieu, ensemble et individuellement, nous ne pourrons pas passer un step. On doit passer un step avec Dieu. On doit passer un step dans sa présence. Et ce n'est pas une lubie de l'équipe pastorale ou des responsables. Face au péché qui augmente, face même aux guerres, tout ce qu'on entend, j'entendais encore que le Japon, qui sont des pacifistes, qui ont reçu les seuls pays qui a reçu les deux bombes nucléaires de tout le monde entier, donc il y a un esprit très pacifiste, ils ont augmenté leur budget militaire. Et ils ont une clause au niveau de la Constitution. Enfin, c'est incroyable. Même le Japon, quoi. Le Japon s'arme. Mais où on va? C'est un peuple gentil, c'est un peuple respectueux. On va vers des temps où, au niveau international, ça ne va pas. On ne va pas vers des temps plus faciles. Et le peuple d'Israël, c'est nous. On va être soumis aussi à ça. Et ce n'est pas parce qu'on connaît Dieu que Dieu va nous faire échapper à cela. Vous savez, le peuple d'Israël, quand il a été soumis à cette souffrance qu'il a vécue, il dit à un moment donné... Le figuier ne fleurira pas, point de vendange dans les vignes. Le peuple d'Israël va connaître la famine, la récession, l'inflation, appelez ça comme vous voulez. Le peuple d'Israël va connaître ça. Alors bien sûr, dans le peuple d'Israël, beaucoup ne marchaient pas avec Dieu et vivaient dans le péché, mais beaucoup marchaient avec Dieu et sincèrement. La souffrance du juste, c'est difficile à comprendre. Et face à tout cela, Dieu ne nous appelle pas à nous plaindre, mais à nous tenir dans sa présence. D'attendre en silence, en gardant la foi dans l'épreuve. De nous taire devant l'Éternel en reconnaissant sa souveraineté. Ça, c'est une foi active. D'attendre qu'il nous parle personnellement. De rester dans sa présence jusqu'à ce qu'il nous fasse monter sur les hauteurs. Amen. Dans notre livre, le juste vivra par la foi. C'est pas écrit ça, en fait. On dit le juste vivra par la foi, mais c'est dans le Nouveau Testament. Mais dans ce livre, c'est écrit que le juste vivra par sa foi. Par sa foi. Le texte original nous enseigne que c'est d'abord un acte personnel, avant d'être un acte communautaire. C'est un acte personnel. Et si nous tous, individuellement, nous entrons dans ce niveau avec Dieu, alors toutes ces personnes qui entreront fera monter tout le peuple et toute l'Église. Le juste vivra par sa foi. Prions. Laurence, tu veux venir pour juste jouer. Seigneur, merci pour ta parole qui n'épargne pas la réalité, qui nous voile pas, mais qui nous dit les choses comme elles sont. Merci Seigneur. Merci Seigneur de ce que tu n'as pas changé et ce que nous n'avons pas changé aussi. Nous ne sommes pas mieux qu'Habakkuk, nous ne sommes pas moins bien. Nous ne sommes pas mieux que le peuple d'Israël, nous ne sommes pas moins bien. Par contre, nous servons un Dieu qui est tout. Ce matin, nous venons devant toi. nous voulons prendre conscience que tu es Dieu et que tu es dans ton Saint-Temple, comme dit ce passage. Nous voulons nous faire silence devant toi, Seigneur. Alléluia. Ce matin, si l'une ou l'autre personne se sente rejoint par ce que j'ai partagé, si l'une ou l'autre personne dit « Mais Seigneur, j'ai besoin d'aller plus loin avec toi, dans cette situation, dans ce cri du cœur ce matin. » Peut-être qu'il y a un cri du cœur ce matin qui est là, que personne ne sait, si ce n'est Dieu. Peut-être qu'il y a un cri qui est là, dans votre cœur ce matin. Vous dites, Seigneur, jusqu'à quand? Jusqu'à quand, Seigneur? J'en peux plus. Alors j'aimerais prier pour vous ce matin. Vous pouvez prier cette main comme une... J'aimerais que vous leviez votre main pour que vous dites, Seigneur, je veux aller plus loin avec toi. Même si je ne comprends pas tout ce qui m'arrive, je vous invite ce matin à lever votre main. On garde les yeux fermés, on ne regarde pas, on est juste dans la présence de Dieu et vous le faites pour le Seigneur. Le Seigneur voit votre main là où elle est. Une fois que vous la levez la main, vous pouvez la baisser. C'est comme un acte de foi que vous faites ce matin. Dites Seigneur, s'il y a encore d'autres personnes qui veulent lever la main, faites-le. On garde les yeux fermés et dire Seigneur, j'ai besoin que tu te révèles à moi. Seigneur, je ne peux plus lutter par mes propres forces, par mes propres raisonnements. Je ne comprends pas. Je mets ça dans tous les sens. Je n'y arrive pas. Par mes propres émotions ce matin. Alléluia. Seigneur, j'appelle ta grâce sur ceux qui viennent de lever la main maintenant au nom de Jésus. Seigneur, tu es le Dieu au-dessus de tous les dieux. Tu es le Dieu qui a créé le monde. Tu es le Dieu qui tient tout dans sa main. Nous déclarons ta souveraineté. Nous déclarons ta force sur les situations qui viennent d'être mises devant toi par cette main levée. Saint-Esprit, je t'invite maintenant à agir, à transformer, à parler, à faire un acte de puissance dans la vie de ces personnes. Oh, viens te révéler à nouveau à ces personnes. Viens agir dans cette situation, dans ces incompréhensions. Viens donner une hauteur à chacun et à chacune qui a levé la main maintenant. Nous appelons Saint-Esprit ton action maintenant dans les cœurs. J'appelle, Seigneur, la guérison face à ce qui a été dit, face à ce qui a été toutes les salissures, les pourritures qui ont été déversées, les ordures qui ont été déversées au nom de Jésus. J'appelle maintenant le sang de Jésus qui vient laver cela, comme tu m'as lavé il y a bien des années. Saint-Esprit, viens enlever toutes les piques, tous les couteaux, tout ce qui a été envoyé, toutes les flèches qui ont mis à terre tes serviteurs et tes servantes, maintenant, au nom de Jésus. Je chasse au nom de Jésus tout ce qui s'est agrippé, tout ce qui a détruit, maintenant. J'appelle vraiment la restauration, ta force, ta vie, ta joie dans le cœur de ces situations, au nom de Jésus. Alléluia, Jésus. Prenons ce chant encore tous ensemble, car Dieu est un Dieu puissant. Amen. Prenons, si vous êtes d'accord avec Laurent, prenons, terminons ce temps par ce chant. J'ai vraiment envie qu'on proclame que Dieu est un Dieu puissant. Alléluia.
Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse. Amen.